Dernièrement, j'ai lu quelque chose de très intéressant. Lorsque une chose dont nous n'avons pas forcément conscience, c'est que notre champ visuel, dans notre champ visuel, dans ce que nous observons, nous avons deux points aveugles. Ces points aveugles sont le résultat d'une convergence des nerfs et des vaisseaux sanguins dans nos yeux, qui font que dans notre champ visuel, nous avons des spots aveugle, qui ne voit rien. Alors, c'est vrai, nous n'en avons pas forcément conscience. Et d'ailleurs, même moi, quand j'ai lu cet article, j'étais plutôt sceptique en me disant, mais est-ce que c'est vrai? Et vous pouvez faire une petite expérience sur Internet. Il y a un test qui vous permet de découvrir votre point aveugle, car ceci est quelque chose de tout à fait naturel et présent chez chacun. Et j'étais surpris de découvrir que j'avais deux points aveugles, puisqu'il y en a un dans chaque œil. Et je me suis dit, waouh, c'est étonnant, parce que quelque part, nous n'en avons pas conscience. Pourtant, ils sont bel et bien présents. Et lorsqu'on fait les tests, on se rend bien compte que dans une partie de notre champ visuel, il y a deux points bien distincts où nous ne voyons rien. Et ça m'a interpellé et ça m'a mis, quelque part, et je crois que Dieu veut nous interpeller par rapport à ça, ça m'a permis de faire un parallèle avec un texte de Paul, qui laisse sous-entendre que si c'est vrai, nous avons deux points aveugles dans notre champ visuel, nous pouvons aussi avoir des points aveugles dans notre champ visuel spirituel cette fois-ci. Et Paul introduit cette réflexion au travers d'un texte, une introduction, même, je vais dire, une prière. Et Paul va s'adresser à l'église d'Éphèse au travers d'une prière où, quelque part, il éveille notre intelligence, où il éveille notre pensée au fait que nous pouvons avoir dans notre champ visuel, spirituel, des spots aveugles. Des choses que nous ne voyons pas, mais que Dieu par contre veut éveiller à notre intelligence. Vous voulez bien comprendre ce texte ensemble? C'est Éphésiens chapitre 1 verset 15, il va s'afficher de suite. Et ce texte commence de la façon suivante, verset 15, « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, verset 16, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. » Donc Paul prie, il prie pour l'église d'Éphèse, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation en sa connaissance. Et notez bien ce qu'il est dit, verset 18, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez, et ça c'est la première chose, quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Deuxième chose, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Troisième chose, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. C'est tout un programme. Mais ce texte m'a interpellé pour trois raisons. Et la première raison, c'est que souvent, moi, j'ai prié pour que des personnes nouvelles rencontrent Jésus. Et j'ai fait cette prière tout simple, mais Seigneur, ouvre leur cœur, qu'ils comprennent l'amour de Christ, qu'ils réalisent combien Dieu est bon, combien Dieu est merveilleux. Parce que bien souvent, lorsque nous venons à Christ, nous venons avec notre cœur. Et en effet, il y a une forme d'aveuglement où nous ne comprenons pas tout ce que Jésus a fait pour nous. Et le Saint-Esprit passe par là, ouvre notre intelligence à la compréhension de l'amour de Dieu, à ce que Jésus a fait sur la croix. Et ça s'appelle la conversion. Et j'ai souvent prié dans ce sens-là. Seulement, Paul ne prie pas pour des personnes nouvelles. Il prie pour une église, l'église d'Éphèse. Et la deuxième chose qui m'a interpellé, c'est que l'église d'Éphèse n'est pas une mauvaise église. On pourrait même dire, c'est une bonne église que Paul a bâtie en son temps, que Paul a exhortée, que Paul a fortifiée. Et quelque part, on pourrait se dire, s'il y a bien une église qui n'a pas forcément besoin d'être illuminée dans son intelligence, c'est l'église d'Éphèse, c'est une bonne église. Or, Paul, il prie pour que cette église soit, et son champ visuel élargi. Il prie, illumine leur intelligence, illumine leur cœur, et qu'ils voient et qu'ils sachent. Et ça m'a renvoyé au fait que, finalement, cette prière que Paul fait à cette église pourrait très bien la faire pour nous ce matin. Et au lieu que ce soit l'église d'Éphèse, ça pourrait très bien être notre assemblée dont il s'agit. Et c'est vrai que ça laisse sous-entendre quelque chose ce matin. Qu'est-ce que je ne vois pas, Seigneur? Et c'est très perturbant de se dire quelque part, Seigneur, Il me semble que je vois bien les choses. Il me semble que, quelque part, mon intelligence est éveillée. Il me semble que ma vision spirituelle sur les choses est claire. Et là, Paul laisse sous-entendre que non. Tu as besoin que le Seigneur illumine les yeux de ton cœur. Illumine ton intelligence afin que tu vois et que tu comprennes qu'il y a certaines choses qui t'échappent et qui ont besoin d'être mises en lumière pour la gloire de son nom. Alors ce texte, en effet, est particulier. Et permettez-moi, avant de développer le fond de ma pensée ce matin, de peut-être préciser un peu plus dans le détail ce qui nous amène à ne pas voir correctement. Parce que c'est intéressant de réfléchir au fait que nous puissions avoir des zones d'ombre spirituelles dans notre champ de vision. Seigneur, pourquoi je ne vois pas certaines choses? Quelle est la raison qui m'amène à ne pas percevoir ce que je suis censé voir? Au point même que Paul indique et fasse cette prière, mais illumine les yeux de leur cœur, illumine leur intelligence et qu'ils voient. Pourquoi je ne vois pas? Alors c'est vrai qu'en y réfléchissant, et peut-être de prime abord, je me suis dit, et peut-être beaucoup d'entre nous pourraient se dire ce matin, c'est l'ennemi de mon âme. En effet, on pourrait penser que finalement l'ennemi de notre âme se joue de nous et nous amène à percevoir les choses comme nous ne devrions pas les voir. Seulement, c'est peut-être facile et trop facile de dire que c'est l'ennemi de notre âme. D'autant que Paul s'adresse à une église. Et il s'adresse à cette église. Et quelque part, je me dis, c'est pas possible. Ça ne peut pas forcément être l'ennemi de notre âme. Et j'ai compris que la source de nos points d'aveuglement spirituel pouvait se trouver ailleurs. Et pas forcément dans celui qu'on croit. Paul va dire dans le livre des Galates, et permettez-moi de vous lire tel quel, il va dire cette chose toute simple, dans Galates chapitre 5, verset 16, « Je dis donc, marchez selon l'Esprit. » Je crois que nous sommes appelés à marcher selon l'Esprit. Lorsque nous devenons chrétiens, nous marchons en nouveauté de vie. Mais Paul n'en reste pas là. Il dit, « Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La chair. Souvent, nous l'oublions parce que lorsque nous devenons enfants de Dieu, oui, le Saint-Esprit fait une œuvre extraordinaire dans nos vies. Oui, il met les bonnes dispositions. Oui, il nous aide à marcher selon l'Esprit. Seulement, soyons honnêtes. La chair reste présente. Non ? Non ? Je pose cette question parce que si vous ne luttez pas avec votre chair, c'est que vous êtes parfait. Ok. Donc, comme personne n'est parfait, a priori, c'est que notre chair est bien présente encore en nous. Et si Dieu nous a donné l'autorité sur la chair, pour autant, par moment, elle ressort de temps en temps. Et elle ressort, et c'est vrai, elle ressort de façon plus subtile qu'on le pense, parce que quand Paul parle des désirs de la chair, il parle de l'ivrognerie, du mensonge, et de tout un tas de choses évidentes. Seulement, lorsque nous marchons selon l'Esprit, par moments, la chair sort de manière plus subtile. Elle jaillit de temps en temps. Et quelque part, ça nous met mal à l'aise. Mais Seigneur, regarde, j'ai encore à lutter avec ma chair. Et oui, lorsque nous serons au ciel, nous serons débarrassés d'elle. Amen. Mais aujourd'hui, nous avons encore à lutter avec elle et elle sort de temps en temps. Et permettez-moi de vous dire qu'elle sort de façon particulière et elle sort des fois au travers de ces points aveugles dans nos vies spirituelles. Notre chair se manifeste par moments dans notre marche avec Christ, avec ces points aveugles, ces éléments qui, dans notre champ visuel, font que nous ne voyons pas les choses comme nous devrions les voir. Et finalement, nous ressemblons à des personnages bibliques que j'aimerais partager avec vous simplement, des exemples qui vont nous aider à comprendre en quoi notre chair par moments jaillit dans nos vies spirituelles au travers de points d'aveuglement dans nos vies. Alors le premier exemple que je voudrais laisser, et c'est un exemple évident, nous le connaissons tous, nous connaissons l'histoire de cet homme, c'est le serviteur d'Élisée, qui un matin va se lever et tout affolé parce qu'il va voir l'armée syrienne autour de lui. C'est dans le livre de Deux Rois, chapitre 6. Et rappelez-vous ce contexte, le roi syrien en a marre d'Élisée, parce qu'Élisée voit toujours les choses arriver avant même qu'il prenne une décision. Alors ça l'agace. Du coup, le roi syrien décide, on va se débarrasser d'Élisée, comme ça, ça va nous faciliter le travail. Seulement, Élisée a un Dieu puissant et fort à ses côtés. Et pendant la nuit, le roi syrien envoie son armée, entoure la ville, assiège la ville. Le matin, le serviteur d'Élisée se lève. Et qu'est-ce qu'il voit? L'armée syrienne entourer la ville où se trouve Élisée. Et ce serviteur tout affolé qui ne voit que cette armée va voir son maître et va lui dire ceci. Ah mon Seigneur, comment ferons-nous ? Je ne sais pas si c'est une prière que j'ai, quelque part, nous avons tous fait, soyons honnêtes. C'est une prière d'un serviteur qui va voir Élisée. Et Élisée est vraiment l'image du Saint-Esprit. Et bien souvent, moi, j'y vois Jésus dans cet homme extraordinaire qui était Élisée. Et souvent, je me suis retrouvé auprès de Jésus face aux situations, face à l'armée syrienne qui m'entoure, face aux difficultés qui sont les miennes et qui font pression dans ma vie spirituelle, en disant, mais Seigneur, comment je vais m'en sortir ? Comment on va faire, Seigneur ? Ça vous est arrivé ? Ah, moi, ça arrive plein de fois. Et face à cette situation où on est entouré, où l'ennemi est là et nous encercle et fait pression dans nos vies spirituelles, oui, devant le Seigneur, dans nos temps personnels, on répand notre cœur et on dit, mais Seigneur, mais comment on va s'en sortir ? Un petit peu à l'image de ce serviteur. Et vous savez, Dieu est bon, Dieu est fidèle, il parle. Et quand on est pris dans cette tenaille spirituelle, Dieu nous parle et Élisée va parler à son serviteur. Il va lui dire ceci, verset 7. Et Élisée répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Amen. Dieu nous parle au travers de sa parole, au travers de dons spirituels, au travers de frères et de sœurs, au travers de choses que l'on reçoit. On vient dimanche matin, on est pris dans la tenaille. Dieu nous parle, Dieu. Mais ceux qui sont avec toi sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre toi. Amen. On repart du cul boosté. Et puis lundi matin, on arrive au boulot. Et puis on retrouve l'armée syrienne qui nous attend. Exemple. Et là, vous savez, vous avez un gros conflit. Quand je vous parlais de lutte avec notre chair, quand notre chair vient à sortir, quand nos yeux charnels voit l'armée syrienne, et quand notre foi entend la parole qu'on a reçue le lendemain, ceux qui sont contre nous sont en moins grand nombre que ceux qui sont avec moi. Amen, merci Seigneur. Seulement, voyez, on vit ce conflit intérieur. Merci pour ta parole Seigneur, mais l'armée syrienne, elle est bel et bien là. Quand nos yeux charnels ne voient pas ce que nos yeux spirituels devraient voir, quand bien même des fois Dieu nous parle, quand bien même des fois Dieu nous encourage au travers de sa parole, au travers de tout ce que l'on reçoit, nos yeux de la foi, eux, sont aveugles. Ils ne voient pas. Ils ne voient pas les choses comme on devrait les voir. Ils ne voient pas ce que nous devrions voir spirituellement. Nous sommes aveuglés. Nous avons un spot, nous avons un point d'aveuglement spirituel qui fait que même si nous recevons une parole de la part de Dieu, nos yeux de la foi sont fermés et notre chair combat et lutte avec nos yeux spirituels. Et ce qui en ressort finalement, c'est que par moments, ce sont nos yeux de la chair qui gagnent cette lutte. Vous la voyez jaillir ? La chair dans nos vies, quand bien même Dieu nous parle, ça ne suffit pas. C'est notre chair qui prend le dessus. Mais il y a une chose extraordinaire dans ce texte, et j'aime ce texte parce que, vous savez, Élisée c'est nous, le serviteur d'Élisée c'est nous. Et Élisée voit son serviteur perdu, voit que la parole qu'il lui a donnée ne suffit pas. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Amen. Les yeux de sa foi se sont ouverts. Et c'est la prière de Paul à l'église d'Éphèse. Permettez-moi de revenir sur notre texte d'introduction où Paul va dire, « Mais Seigneur, il priait Jésus, il priait le Père dans les cieux pour qu'il illumine les yeux de nos cœurs, pour que nos yeux s'ouvrent, que notre intelligence s'ouvre à ce que nous ne voyons pas, à l'invisible. » Et il va le dire de la façon suivante, il prie, il dit, « Illumine les yeux de leur cœur afin qu'ils sachent, afin qu'ils voient. » Et je me suis permis de l'inscrire juste en dessous, « Quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance ?» Par moments, nos yeux de la foi ne sont pas capables de voir la puissance de Dieu, qui se manifeste au travers de l'invisible. Et ma conviction, bien souvent, mes frères et sœurs, Dieu veut ouvrir nos yeux sur l'invisible pour que nous puissions vivre l'extraordinaire. Il veut ouvrir nos yeux sur l'invisible pour que nous puissions voir l'extraordinaire de sa puissance. Et c'est ce que Paul dit, ouvre leurs yeux pour que nous qui croyons puissions voir l'infinie grandeur de sa puissance manifestée avec efficacité par la vertu de sa force. Seigneur, on veut voir ta puissance, on veut voir l'invisible, on veut croire que tu es le Dieu puissant, que face aux armées syriennes qui nous entourent, tu auras le dernier mot, parce que tu as envoyé autour de moi des chariots de feu, tu as envoyé une armée autour de moi pour me protéger. C'est tout. Moi, je suis émerveillé de savoir que Dieu met autour de moi une arme aimée que mes yeux de la chair ne peuvent discerner, ne peuvent voir. Aussi, la prière de Paul a tellement de sens. Seigneur, ouvre les yeux de mon intelligence, ouvre les yeux de mon cœur, que je puisse voir, Seigneur, ton armée de feu autour de moi. Seigneur, je ne veux pas rester aveugle, mais que mes yeux s'ouvrent et que face à l'armée syrienne, les yeux de ma foi puissent voir la grandeur, la puissance et la force de l'éternel Dieu des armées. Amen. Le deuxième exemple que je pourrais laisser ce matin et je vais laisser sur votre cœur, c'est l'exemple de Pierre. Pierre, un homme de Dieu vraiment extraordinaire, dont Dieu s'est servi, dont Jésus s'est servi pour bâtir son Église. Et Pierre, il a un sacré curriculum vitae. Hein. Il a... waouh. Et quand je lis l'histoire de Pierre, souvent, je suis interpellé d'une histoire en particulier dans les Écritures. Cette histoire, nous la retrouvons avec Pierre qui est sur le toit d'une maison, il est chez Simon. Et là, Dieu va lui parler d'une façon extraordinaire. Il va le plonger dans une espèce de rêve, de songe, et il va lui montrer certaines choses. Il va lui montrer une chose extraordinaire, une nappe avec des animaux dedans. Et la parole de Dieu va se manifester, va parler à Pierre d'une façon très précise. Alors que Pierre est dans son rêve, voit ces animaux, il les discerne clairement, Dieu va lui dire ceci. Il entendait une voix qui disait, « Lève-toi, Pierre, tue ces bêtes et mange-les. » Et voyez la réaction de Pierre, verset 14, cet homme de Dieu, juste extraordinaire, inspiré. Qu'est-ce que va dire Pierre ? « Au nom, Seigneur !» Peut-être qu'on pourrait mettre en question le fait que Pierre ne voit pas dans la personne qui s'adresse à lui Dieu. Or, le texte est clair. Il sait que Dieu est en train de lui parler. Pourtant, il lui dit quoi ? Vous pouvez interagir avec moi. Il lui dit quoi ? Ok, non ! Il est un homme de Dieu inspiré, il lui dit non ! Waouh! C'est pas tout. Il lui dit non, Seigneur, répliqua Pierre, car jamais de ma vie je n'ai rien mangé de souillé ou d'impur. Verset 15. Mais la voix reprit et dit, ce que Dieu, là c'est clair, c'est le Dieu qui lui parle, ce que Dieu a déclaré pur, ce n'est pas à toi. Petit Pierre, tu es gentil, hein, tu peux avoir tes idées, tes opinions, mais moi ce que je déclare pur, c'est pas à toi de le déclarer impur. Vous me suivez ? Verset 16. Par trois fois, cela se renouvela. Par trois fois, tout en sachant ce que Dieu venait de lui dire, il va dire non. Et ça se renouvela. Puis la nappe disparut dans les cieux. Waouh ! Là, vous vous dites, il y a quand même un gros conflit dans le cœur de Pierre. Il y a une grande opposition dans ce qu'il vit intérieurement. Il y a comme quelque chose qui est bloqué. Sa perception des choses, sa vision des choses se confronte à la parole que Dieu est en train de lui laisser sur son cœur. Et ça se confronte tellement dans le cœur de Pierre que la suite du texte va dire quelque chose. Et si vous avez le texte sous vos yeux, voici ce qu'il est dit au verset 17. Pierre était fort perplexe. Vous avez déjà été perplexe ? On peut être perplexe de plein de choses, mais permettez-moi de recentrer sur ce que nous pouvons vivre avec Dieu comme Pierre venait de le vivre. Dieu lui parle. Dieu est en train d'ouvrir une perspective nouvelle dans sa vie. Et je trouve ça juste merveilleux. Merci Seigneur, tu m'ouvres une porte. Et là, on y va, on dit, ah Seigneur, tu es avec moi, tu ouvres cette porte. Et depuis que j'attendais cette porte, on y va. Et puis là, une fois qu'on y est, on ne comprend plus. Ça vous est déjà arrivé ? De vous retrouver dans un projet que Dieu, clairement, et Dieu est là, Dieu est avec vous, Dieu vous encourage, c'est mon projet, c'est mon plan, on y va serein, en pleine confiance, on dit ça va être génial, les écluses des cieux vont s'ouvrir sur ma vie. Et là, une fois qu'on rentre, wow Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Je comprends ? Non, je ne comprends pas. Tu me dis d'y aller et pour autant, ce que je perçois de cette situation, c'est de la perplexité. Je suis perplexe. Est-ce que Dieu vous a déjà mis dans des situations où vous êtes perplexe ? Moi, ça m'est arrivé. Et Pierre, ça lui est arrivé. Et dans cette situation précise, Pierre est très perplexe. Perplexe de ce qu'il voit, perplexe de ce qu'il entend. Et d'ailleurs, le texte va plus loin. Il dit, oui, Pierre était perplexe et se demandait ce que cette vision signifie. Qu'est-ce que ça signifie, Seigneur ? Il y a ton plan, il y a ton approbation. Tu m'as dit d'y aller, j'y suis allé. Je m'attends à plein de choses, mais pas ça. Pas à ce que je vis. Comment ça se fait que les choses se mettent en place de cette façon-là ? Je ne m'attends pas du tout à ça. Et j'aimerais vous dire que la perplexité de ce que Pierre va voir va s'expliquer par la suite. Parce que, alors que Pierre se réveille de cette vision particulière, perplexe, là, le Saint-Esprit lui dit, t'inquiète pas, je vais t'ouvrir les yeux. Alors que Pierre ouvrait les yeux, à l'instant même, des hommes viennent le chercher, l'amènent jusqu'à la maison de Corneille. Et là, alors qu'il est dans la maison de Corneille, qu'est-ce que fait Pierre ? Ce qu'il sait faire, il prêche, il annonce l'évangile. Et alors qu'il annonce l'évangile, le Saint-Esprit tombe sur les personnes qui sont là, sur Corneille. Et là, Pierre, cette perspective de la vision de l'Église que Pierre ne perçoit pas, ne voit pas, s'entrechoque. Pierre est en face d'une révolution, quelque chose qui le bouscule. Qui le rend perplexe, ces animaux qui sont impurs à ses yeux. Dieu décide qu'ils soient purs et ils vont être purs, ils vont rentrer dans l'Église. Le plan et la destinée de l'Église est en train de basculer. Ce que Pierre n'était pas prêt à accepter, Dieu lui fait accepter et lui dit, Pierre, maintenant je vais ouvrir tes yeux sur ta perspective de l'Église. Ce que tu ne vois pas de l'œuvre de Dieu, ce plan étroit que tu as de l'Église, moi maintenant je le fais voler en éclats. La prison de chair dans laquelle tu as enfermé ta vision de l'Église, moi maintenant je la fais voler en éclats. Et ceux que tu ne considères pas comme purs, ceux que tu ne considère pas comme acceptable dans le royaume de Dieu. Moi, je les accepte aujourd'hui, que tu le veuilles ou non. Et là, Pierre, dépourvu, il voit le Saint-Esprit tomber sur ces gens. Il dit, bon ben, si le Saint-Esprit a décidé de les baptiser de feu, je ne peux pas leur empêcher d'être baptisés d'eau. Waouh ! Pierre vient d'un contexte familial, d'un contexte, d'une culture. Il est juif. Et Pierre le dit en substance quand à un moment donné, il précise les choses, mais il va le dire là clairement, mais je n'ai jamais garde de ma vie, je n'ai jamais rien mangé de souillé. Ça, c'est son histoire et la vision que Dieu lui fait se confronte à son histoire, à sa vision étriquée du projet de Dieu. Pourtant, Jésus l'avait prévenu. Allez par tout le monde et faites de la terre des... Jésus leur avait dit... Seulement, leur vision était tellement étroite, seulement la vision de Pierre était tellement fermée, seulement Pierre avait des points d'aveuglement qui l'empêchaient de voir la destinée et le projet que Dieu avait pour son Église. Tu es peut-être dans la perplexité ce matin. Ce que tu vis t'amène à dire, mais je ne comprends pas, Seigneur. Mais Dieu, peut-être, est en train de te faire passer par toutes ces choses pour t'ouvrir les yeux, pour que tu vois ce que tu ne voyais pas jusqu'à présent, pour que ton regard, ta vision peut-être étriquée des choses s'élargisse, pour que ce que tu viens avec ta personne, tu viens avec ta personne, avec ta culture, avec ta façon de voir les choses soit ébranlé pour la bonne cause, pour que Dieu t'amène à comprendre et à voir au-delà de ce que tu peux penser ou même imaginer. Et c'est vrai, ça se confronte à un carcan, à quelque chose, une prison spirituelle, une prison charnelle dans laquelle nous nous enfermons par moments, mais que Dieu veut faire voler en éclats pour nous amener à voir ce que Dieu voit et non pas ce que nous voyons nous. Paul va faire cette prière. Il va le dire, et là encore, permettez-moi, il va dire, mais illumine leur cœur, illumine leur intelligence afin qu'ils sachent quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Pierre avait une vision étriquée de ce que Dieu réservait aux saints. Pierre avait une vision empreinte de sa culture, empreinte de son passé, empreinte de ce qu'il avait vécu, qui l'amenait à avoir une vision fermée, une prison charnelle s'était fermée sur sa vie, et au point qu'il ne pouvait voir le projet que Dieu avait pour sa vie et pour l'Église. Dieu va faire sauter la prison, et Pierre va voir. Ce matin, tu es perplexe quant à ce que tu vis. Peut-être juste Dieu est en train de te dire ce matin, je vais t'ouvrir les yeux et tu vas voir. Tu vas voir et tu vas comprendre. Et ce que Dieu veut faire au milieu de nous, c'est nous amener à comprendre. Comme il a amené Pierre à comprendre ce qu'il devait voir, ce qu'il devait vivre. Comme le Saint-Esprit a amené Pierre à ouvrir son intelligence sur ce qu'il devait accepter. Le Saint-Esprit va te prendre par la main. Il va te montrer. Et ce qui est perplexe en toi va s'éclairer. Et à la lumière de la révélation qu'il va mettre sur ton cœur, tu vas dire, j'ai compris. Amen. Ok, on avance. Dernier exemple. Le dernier exemple, finalement, c'est celui qui peut le mieux en parler. C'est Paul lui-même. Et Paul lui-même a vécu ça. Lorsqu'il prie et qu'il prie, illumine leur cœur. Paul sait de quoi il parle. Et permettez-moi de revenir un petit peu en arrière pour comprendre de quoi Paul parle. Nous sommes sur le chemin de Damas. Et à cette époque-là, Paul ne s'appelle pas Paul, il s'appelle Saul de Tarse. Et Saul de Tarse vient avec une mission terrible. Il vient à Damas pour persécuter les chrétiens. Il a reçu une lettre, une autorisation qui lui permet d'aller dans les synagogues afin d'amener liés à Jérusalem tous ceux qui se disent chrétiens. Et là, sur ce chemin de Damas, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Permettez-moi qu'on le lise ensemble, vous voulez bien ? Actes chapitre 9, verset 1er. Voici ce qu'il nous y dit. « Cependant, Saul respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur Jésus-Christ, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. » Voilà, comment on nous présente Paul ? Il est chargé, hein ? Verset 3, « Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui, il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Et on va rester là quelques instants. Regardez ce que Paul dit à l'église d'Éphèse. Verset 18, « Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. » Paul parle de ce qu'il a vécu des années avant. Son intelligence sur la route de Damas s'est ouverte. Il a compris que celui qu'il persécutait était celui qu'il pensait servir. Et il l'exprime d'une façon claire parce que il est une réalité qui ne peut pas nous échapper ce matin. Quant à Paul et quant à cette personnalité, quant à Saul de Tarse, dès sa naissance, avait été mis à part pour Dieu. Et il y avait un zèle dans son cœur, même s'il était du mauvais côté de la barrière, il y avait un zèle pour Dieu. Et il pensait faire les choses sincèrement pour Dieu. Il avait un désir de servir Dieu, mais un désir mal canalisé, un désir mal orienté, un désir mal éclairé, un désir dans l'obscurité, un zèle dans l'obscurité, et parfois pire que le reste. Chez Paul, il y avait un feu. Chez cet homme, chez Saul de Tarse, sur ce chemin de Damas, il y avait un feu. Croyant servir Dieu, il le combattait, mais il était zélé pour Dieu. Il y avait quelque chose sur son cœur pour le service pour Dieu. Il le faisait de tout son cœur, mais de tout son cœur, complètement à côté de la plaque. Et vous savez, il y a une chose qui est très importante. On peut être zélé pour Dieu, mais ce zèle est un feu qui nécessite d'être canalisé à la lumière de ce que Dieu veut nous dire. Vous me suivez toujours ? Il est tellement important que ce zèle, cette passion qui est en nous, ne soit pas canalisée par notre chair, ses désirs, ses rêves. Car un zèle mal canalisé, un zèle qui trouve son inspiration dans la chair, est un zèle qui peut devenir destructeur. Paul en est l'exemple, Saul de Tarse, animé d'un zèle pour Dieu, canalisé, emprisonné dans une vision fanatique, dans un aveuglement fanatique, fait de lui un persécuteur d'église. Et là, on se dit, mais Seigneur, est-ce possible ? Comment est-ce possible qu'un homme comme Paul, un homme percé dans les Écritures, qu'un homme comme Saul de Tarse enseigné, plongé continuellement, il connaissait les Écritures par cœur, il a été formé à l'une des plus belles écoles bibliques de l'époque, au pied de Gamaliel. C'était, waouh, t'as été à l'école de Gamaliel, waouh ! Et pour autant, être aveuglé, parce qu'emprisonné dans une vision charnelle, le conduisant à du fanatisme, tuant, emprisonnant, brisant des familles. Sur ce chemin de Damas, comme Paul le dit, ses yeux vont être illuminés. Son intelligence va s'ouvrir. Il va se passer quelque chose d'extraordinaire et ça va être d'une d'une rapidité absolue. Regardez ce qui se passe. Il tombe par terre. Il entendit une voix qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Mais qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Il a compris. Vous savez, c'est un reboot. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme. C'est à un moment donné, on reprend tout à zéro, la programmation. Il y a quelque chose qui a coincé dans sa vision, dans ce qu'il avait reçu, dans ce qu'il a appris, dans ce qu'il comprenait, dans la vision qu'il avait. Parce qu'il a été illuminé par la personne de Christ. Il a vu qui était Jésus. Il y a un changement radical. Il a enfin compris ce qui l'aveuglait à sauter. Jésus, ce jour-là, sur la route de Damas, a brisé la prison d'aveuglement spirituel qui était sur sa vie. Et là, c'est la révélation. Et dans les mots de Paul, ça ne transparaît pas, mais quand Paul dit « Seigneur », il abdique et celui qu'il combattait finit par devenir son maître. Il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Il s'abandonne. Et là, on voit que la révélation prend toute son ampleur. Son intelligence est enfin éveillée. Il est éclairé. Et ce zèle passionné trouve enfin son sens dans la vision que Dieu voulait lui donner. Amen. Et celui qui persécute l'Église va devenir le champion de l'Évangile. Waouh ! Mais combien un zèle, mes frères et sœurs, mal canalisé, mal conduit, mal inspiré, peut être une arme de destruction. Et par moments, on reçoit des choses de la part de Dieu. C'est peut-être ton sentiment ce matin. Le zèle est en toi. Mais il y a une frustration qui est là présente parce que ce zèle a été plus destructeur que quelque chose qui a construit. Et Dieu veut éclairer ton intelligence, comme Paul va le dire dans sa prière. Illumine les yeux de leur cœur, comme tu as illuminé les miens sur la route de Damas, pour qu'ils sachent, pour qu'ils voient quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel pour nos vies. Quel est ton appel pour ma vie ce matin ? Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Et Dieu va lui parler, va lui dire « Oui, on va t'amener à Damas, et à Damas, on te donnera les informations. » Et c'est là que Paul va rencontrer Ananias, et c'est là que Paul va prendre connaissance par révélation de ce à quoi Dieu l'appelle. Et Ananias va prier pour lui, et des écailles vont tomber de ses yeux. Je pourrais en rester là ce matin, et vous dire que le désir de Dieu, c'est d'ouvrir les yeux de nos cœurs, sur ce que nous ne voyons pas, sur l'invisible, quand l'armée syrienne est autour de nous. Et ce matin, il y a l'armée syrienne qui est autour de toi. Et tu es comme ce serviteur. Qu'est-ce que je peux faire, Seigneur ? Qu'est-ce que je vais faire ? Et tu as reçu des paroles, mais dans ton cœur, ça ne suffit pas. Parce que la chair domine encore sur toi. Mais Dieu veut ouvrir tes yeux pour voir l'invisible ce matin. Amen. Il veut que tu vois les chariots de feu par la foi. Je pourrais en rester là et te dire ce matin comme Pierre, tu es dans la perplexité de la situation dans laquelle tu es. Et il n'y a pas d'ambiguïté, c'est là où Dieu te veut, mais tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas, tu es perplexe. Tu te dis, mais comment ça se fait ? Dieu va te prendre la main, comme il a pris Pierre par la main, va te conduire là où les choses vont trouver leur sens. Où ce qui est perplexe va devenir clair. Il va faire sauter le point d'aveuglement dans ta vie. Ce que tu ne vois pas, ce que tu n'as pas compris dans ce que Dieu t'amène et te fait vivre, Dieu va t'éclairer. Amen. Et de ce qui est perplexe, Dieu va mettre la lumière ce matin. Peut-être c'est par rapport à ton appel. Et je pourrais en rester là aussi ce matin. En te disant que tu as besoin que Dieu vienne révéler ton appel parce que ton zèle est en train de te détruire. Conduit par les désirs et les attentes de la chair. Le zèle que Dieu a mis en toi est en train de te détruire et en train de détruire autour de toi. Comme Saul de Tarse qui va à Damas, tu as besoin d'être éclairé sur ce que Dieu veut faire de ta vie. Éclairé sur ce que Dieu veut accomplir au travers de toi. Éclairé par la lumière quant à l'appel qu'il a pour toi. Maintenant, et je voudrais aller plus loin ce matin. Il manque une clé. Parce que nous voudrions tous être éclairés quant à ce que nous ne voyons pas. Nous voudrions tous être éclairés. Nous voudrions tous voir l'invisible pour voir l'extraordinaire de Dieu. Nous voudrions tous comprendre quelle est notre destinée, quel est notre appel. Nous voudrions être comme Pierre face aux situations perplexes de nos vies, face aux situations que nous ne comprenons pas, quoique Dieu nous y a mis. Seulement, il y a une clé pour nos vies spirituelles. Et cette clé, j'ai mis du temps à la comprendre, mais c'est dans ce texte, sur cette route de Damas. Il y a cet échange entre Paul et Jésus. Jésus va lui dire « Je suis Jésus que tu persécutes. » Il te serait dur, Paul, de regimber contre les aiguillons. Et là, Paul, tremblant et saisi d'effroi, dit « Seigneur, mais que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Verset 7, « Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. » Verset 8, et notez bien ce qu'il est dit. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. Je ne sais pas si l'auteur, si Luc a fait exprès de mettre la chose de cette façon-là, mais il y a comme une contradiction dans ce que l'auteur est en train de dire. L'auteur dit, Luc dit de Paul, quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. Alors on comprend tous que Paul est aveugle à ce moment-là, mais ce qui m'interpelle, c'est que Luc est en train de dire de Paul que ses yeux étaient pourtant ouverts. Ce jour-là, sur la route de Damas, Dieu a ouvert les yeux de Saul de Tarse pour qu'il voie et qu'il reconnaisse la gloire et la majesté de Dieu. Qu'il reconnaisse que Jésus est son Seigneur, et c'est ce qu'il va voir. Quoique ses yeux étaient ouverts, il ne voyait rien. Ses yeux se sont ouverts à la vérité. Ses yeux se sont ouverts sur la majesté de Christ. Ses yeux se sont ouverts sur qui ? Le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ. Quoique ses yeux fussent ouverts, et oui, ses yeux spirituels se sont ouverts sur des réalités qu'il ne voyait pas, qu'il ne discernait pas. Oui, il avait entendu parler, mais ses yeux étaient dans un aveuglement complet. Dieu a brisé la prison dans laquelle il était, a brisé le joug qui le maintenait dans un aveuglement spirituel pour que ses yeux voient. Aujourd'hui, ce jour-là sur la route de Damas, oui, Paul a vu ses yeux s'ouvrir, quoique ses yeux étaient ouverts. Oui, ils étaient enfin ouverts sur la vérité de qui était Christ, son Seigneur, son Maître. Son sauveur, quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. Vous savez, ce détail-là m'a beaucoup perturbé, mais pourquoi ? Pourquoi ses yeux se sont fermés ? Pourquoi ses yeux charnels se sont fermés ? Galates chapitre 5, verset 24. Ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous voulez bien lire avec moi ça ? Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Sur cette route de Damas, Jésus a ouvert les yeux de Paul, ses yeux spirituels, mais il a crucifié la chair. Et l'une des clés pour voir Dieu, l'une des clés pour voir l'armée céleste quand nous sommes entourés de l'armée syrienne, l'une des clés pour voir ce que Dieu attend de nous quand nous sommes dans la perplexité d'une situation, l'une des clés lorsque nous sommes enfermés dans une prison et que nous ne comprenons pas comme Paul, c'est d'accepter que notre chair soit crucifiée. D'accepter que ce qui nous aveugle disparaisse. Il est une vérité, mes frères et sœurs, absolue dans la marche avec Christ. C'est d'accepter que notre chair soit crucifiée pour mettre la foi sur le trône de nos vies. C'est d'accepter, comme le texte se dit, ceux qui marchent, ceux qui sont avec Jésus-Christ, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. J'aimerais te poser une question ce matin. Alors que l'armée syrienne t'entoure, qu'est-ce qui est en train de dominer ta vie ? Ta chair, ses penchants ? Ou est-ce que tu veux que Dieu change ton intelligence pour t'amener à voir les chars de l'armée céleste ? la question du serviteur à Élisée est simple. Elle dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Élisée, on fuit, on part, ou on va combattre. Il est dans un raisonnement très charnel des choses qu'il voit. Accepteras-tu de crucifier la chair pour laisser la foi s'asseoir sur le trône de ta vie? Quand Pierre est face à ce qui bloque, au point de dire non, 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 tu es en train de dire non à Dieu. Et parce que tu dis non à Dieu, tu es dans cette situation perplexe, où tu dis à Dieu, non, je ne comprends pas. Et si tu laissais ta chair être crucifiée en disant, Seigneur, maintenant c'est ma foi que je mets sur le trône de ma vie. Paul va avoir ce choix. Jésus va lui dire, Paul, Saul de Tarse, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de regimber contre les... Ok. Il avait le choix de laisser la chair s'installer sur le trône de sa vie et de crucifier la foi. Mais Paul a fait le choix ce jour-là de mettre la foi sur le trône de sa vie et de dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Dieu veut ouvrir les yeux de nos cœurs ce matin. Et la question que je veux te poser, est-ce que tu veux faire cette prière? Ce n'est pas le tout de dire, Seigneur, je veux voir. L'armée syrienne est là. Je veux voir. Ouvre les yeux de ma foi parce que je veux voir ton armée céleste. Ce n'est pas le tout de demander à Dieu d'éclairer ton intelligence parce que tu es dans une certaine perplexité dans ta vie. Dieu veut ouvrir ton cœur à condition que ta chair soit crucifiée. Et que ta foi s'assoie sur le trône. Ce matin, je voudrais qu'on baisse nos têtes quelques instants, on va baisser nos fronts. Et j'aimerais t'inviter à faire cette prière. Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. J'ai besoin de voir l'armée céleste. Dans la situation dans laquelle je suis, j'ai besoin de voir les chariots de feu. J'ai besoin de voir ton armée m'entourer. L'armée syrienne t'accable. Et tu es comme ce serviteur. Tu es dans l'angoisse. Ouvre les yeux de mon cœur, je veux voir ton armée ce matin. Peut-être ce matin, tu es comme Pierre. Tu es dans le projet de Dieu. Tu le sais, Dieu t'y a amené, Dieu a ouvert une porte. Et dans ton cœur, c'est tellement vrai, mais c'est tellement perplexe que tu vis. Parce que même si Dieu a ouvert la porte, tu ne comprends pas pourquoi Dieu te permet que tu passes par là. Et Dieu, je suis en train de te dire, je pose ça sur ton cœur, Dieu va ouvrir tes yeux sur ce que tu vis, tu vas comprendre. Saint-Esprit va te conduire, va t'amener, va ouvrir les yeux, va ouvrir ta compréhension, va faire sauter les points aveugles de ta vie pour que tu vois la plénitude du projet que Dieu a pour ta vie, pour tes saints, pour ses saints. Peut-être ce matin, tu es comme Paul. C'est ton appel qui pose problème, c'est ce que tu as reçu sur ton cœur. Et jusqu'à présent, cet appel qui est censé être porté du fruit, qui est censé être juste un élément glorieux entre les mains de Dieu, n'a été qu'une succession d'échecs. Que Dieu ouvre ton intelligence sur ton appel. Alors il y a une clé à saisir, une prière à faire. Je veux voir. Aussi, mon Dieu, ma prière pour ma vie, j'accepte de crucifier la chair, ses désirs, sa volonté, et comme le dit ce texte, ses passions, pour enfin voir ce que je dois voir, enfin voir ce que je ne vois pas. Alors qu'on est allé, on a tous les têtes baissées ce matin, je voudrais t'inviter à manifester cette prière en toi au travers d'un geste. Lève-toi. On va prier ensemble. Tu as besoin que tes yeux s'ouvrent. Il y a tellement de choses que tu ne comprends pas aujourd'hui dans ta vie. Tu es perplexe. Mieux, l'armée syrienne est là. Et tu es comme ce serviteur perdu. Tu as reçu des paroles, mais ça ne suffit pas. Tu as besoin que les yeux de ton cœur s'ouvrent pour comprendre la puissance de Dieu, pour comprendre ce que Dieu veut faire au travers de ta vie. Alléluia. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux voir ton armée céleste, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux comprendre pourquoi cette situation est là, pourquoi je vis ce temps de perplexité dans ma vie spirituelle. Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur quant à mon appel, quant au zèle qui est en moi, quant au feu qui me dévore. Ouvre mon intelligence, j'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de comprendre parce que jusqu'à présent, ça a été destructeur. Saint-Esprit va ouvrir les yeux de ton cœur dans la mesure où tu décides ce matin de briser, de crucifier la chair, ses désirs sur la croix et d'accepter que la foi s'installe, la foi en Jésus-Christ s'installe sur le trône. Alléluia, Jésus. Je voudrais inviter l'Église à prier avec moi pour tous les amis qui sont levés ce matin, vraiment. Seigneur Jésus, nous venons devant toi et nous nous attendons à toi. Seigneur, il y a des choses qu'on ne voit pas. Et Seigneur, par un moment, nous avons besoin que tu fasses grâce. Nous avons besoin que le Saint-Esprit vienne éclairer notre intelligence. Éclaire ce qu'on ne voit pas ce matin. Je ne vois pas ton armée. J'entends parler de ton armée. Tu m'as parlé de ton armée. Mais Seigneur, les yeux de ma foi sont fermés. Je suis dans l'obscurité. Ouvre les yeux de ma foi. Il y a des choses dans mon champ visuel, spirituel, que je ne vois pas. Fais sauter les points d'aveuglement spirituel. Fais sauter ce qui m'empêche de voir ton armée ce matin. Il y a des chariots de feu qui sont autour de toi. Ils sont présents, mais tu ne les vois pas. Ouvre les yeux des cœurs les plus fermés. Ouvre les yeux de la foi de ceux qui sont pris au piège dans la tenaille de l'armée syrienne. Tu veux ouvrir les yeux des cœurs. Face à la perplexité de ce que nous vivons, face aux situations qui nous amènent sur le terrain d'incompréhension. Seigneur, tu m'y as mis. Pourquoi tu as ouvert cette porte pour que je me retrouve dans cette situation? Et alors que Dieu a ouvert la porte, alors que tu y es, Dieu a un plan précis, mais qui t'échappe. La vision est floue. Ta compréhension est tellement limitée. Alors que toi, tu veux faire par ta puissance en nous au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous disons. Ouvre notre intelligence. Ouvre notre intelligence. Et intelligence qui restreint les choses, intelligence qui limite notre compréhension, notre entendement. Seigneur, ouvre notre intelligence comme tu as ouvert l'intelligence de Pierre sur l'œuvre que tu vas accomplir et sur l'œuvre que tu voulais accomplir dans l'Église. Donne-nous une vision plus large de ton royaume. Donne-nous une vision plus large de ce que tu veux faire. Donne-nous une vision plus large de ce que nous vivons. Et que la perplexité de la situation dans laquelle nous passons, nous puissions comprendre. Ce matin, je prie pour que les écluses des cieux tombent. Comme sur la route de Damas, pour Paul, tu as ouvert les yeux de son appel. Ton appel aujourd'hui, c'est comme un cul-de-sac. Et tu dis, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux faire de ma vie? Je ne comprends pas, Seigneur. Il y a un zèle pour toi, il y a un désir de te servir. Mais aujourd'hui, Seigneur, j'ai essayé avec les désirs de ma chair. J'ai essayé, Seigneur. J'ai mis ma chair sur le trône et j'ai crucifié la foi. Ce matin, Dieu te dit de faire complètement autre chose. Maintenant, laisse la foi prendre le contrôle de ton appel et crucifie la chair avec ses désirs. Au nom de Jésus, Seigneur, au nom de Jésus, éclaire les cœurs les plus perdus ce matin. Au nom de Jésus, éclaire par la puissance de son Saint-Esprit ce qui a besoin d'être éclairé dans les cœurs. Au nom de Jésus, toi qui libères, qui brises les prisons que notre chair a bâties autour de notre appel, autour de notre vision, viens briser ce que notre chair a bâti autour de nous pour que nous puissions voir ta gloire, Seigneur, ce matin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Amen.